Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.
Si Pierre s'appelle Pierrette.
Bonjour, c'est David Christoffel. À 17h02 sur Bretagne 5, je vous retrouve pour l'émission Métaclassique.
J'ai ressenti pas mal de choses à l'écoute de la musique.
En compagnie de musiciens, d'historiens, mais aussi d'étudiants, de musicologues, chaque semaine, un verbe est décliné en musique classique et au-delà pendant une heure à 17h après les infos sur Bretagne 5 pour l'émission Métaclassique.
Et le rendez-vous est pris avec David Christoffel tout à l'heure à 17h. Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Jean-Louis Miles, il est référent place publique Morbihan. Il a fait la route pour être avec nous ce matin en direct depuis le Morbihan. Et bien je l'en remercie, merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Merci, bonjour.
Et bonjour, voilà j'allais oublier le bonjour, c'est important quand même. Pour démarrer l'entretien, nous allons parler évidemment de politique ce matin avec vous Jean-Louis Miles. On va parler d'Europe car aujourd'hui on est rentré dans cette phase déjà de la campagne électorale pour les élections européennes. L'Europe qui est chahutée aujourd'hui avec une guerre à ses portes, avec des valeurs de gauche qui sont elles aussi chahutées. Et pourtant la gauche, en tout cas le Parti Socialiste, Place Publique, ont envie de revenir dans l'hémicycle. Raphaël Glucksmann qui porte la liste Réveiller l'Europe est déjà parlementaire européen. Mais si l'Europe basculait à gauche, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus une utopie, mais une possible réalité ?
Alors, tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu aussi sur le fonctionnement de l'Europe, parce que en fait, on n'en parle pas, je trouve, suffisamment. Mais l'Europe, c'est un fonctionnement. On parle du Parlement, mais il y a la Commission européenne aussi. Il y a le Conseil de l'Europe aussi. Donc, c'est trois instances. Et donc là, ce dont il s'agit, c'est les élections européennes du 9 juin prochain. Je rappelle aussi que c'est une élection à un tour, et que il n'y a pas de deuxième tour, parce qu'on a tendance à vouloir un petit peu présidentialiser cette élection-là, alors qu'en fait, c'est une élection vraiment particulière. Et donc, pour revenir à votre question, actuellement, il y a deux groupes majoritaires qui se partagent les voix au Parlement européen. C'est le groupe social et démocrate et le groupe PPE, la droite européenne. Et donc, c'est les deux groupes majoritaires. Et c'est l'enjeu de ces élections, effectivement, ça va être à une vingtaine de voix près entre les deux groupes. Et en fait, c'est très, très important parce que, effectivement, on a tendance ici à jouer un peu le match des présidentielles de nouveau entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, alors qu'en fait l'enjeu au niveau du Parlement européen, c'est un enjeu entre la droite et la gauche, un peu classiquement comme on le dirait, et c'est pas du tout un enjeu tel que nous on le connaît en France. Et ce qui est très important aussi, c'est que suite à cette élection aussi, le président de la Commission européenne, ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, en fait ça peut être une personne de droite, donc en l'occurrence Ursula von der Leyen, ou alors Nicolas Schmitt, qui est le Spitzenkandidat pour les groupes de gauche réunis. Donc voilà. Et une autre chose aussi qui est très importante pour les auditeurs de savoir, c'est que le fonctionnement de l'Europe et du Parlement européen est basé sur des compromis, c'est-à-dire que tous les groupes travaillent sur les projets de loi, font des alliances pour travailler sur des lois. C'est quelque chose que nous, en France, on connaît moins. Mais par contre, au Parlement européen, le travail se fait beaucoup à base de compromis. Donc voilà pour le paysage un petit peu qui sous-tend cette élection européenne, qui est vraiment très, très, très cruciale. Malheureusement, elle est pas, comment, il n'y a pas beaucoup de participation, un taux d'abstention qui est malheureusement assez élevé pour ces élections, alors que c'est une élection vraiment cruciale. Bon, on en reviendra sûrement sur ce sujet-là.
Voilà, on va en parler, évidemment, c'est important de c'était aussi important, en préambule, Jean-Louis Minès, que vous rappeliez un petit peu le fonctionnement, les enjeux qu'on a tendance un petit peu à oublier. Alors justement, ça percute aussi avec la politique, je vais dire, franco-française. Est-ce que là aussi, aujourd'hui, on a l'impression que ça va être une forme de primaire? Est-ce qu'il y aura une sanction peut-être de l'action du gouvernement aujourd'hui? Est-ce que vous craignez ça? Est-ce que vous craignez finalement que, en tout cas en ce qui concerne les Français, eh bien, ce soit plus un vote sanction contre Emmanuel Macron et son gouvernement, plus qu'un vote européen en lui-même?
Je pense pas, parce que en fait, la guerre qui est aux frontières de l'Europe a changé un petit peu la donne, notre liste s'appelle Réveiller l'Europe, et effectivement, il faut réveiller l'Europe. Parce qu'il y a des crises diverses et multiples qui sont des enjeux européens, notamment celui principalement que l'on voit en premier, c'est la guerre en Ukraine, mais il y a aussi l'enjeu écologique qui est très 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 important, qu'on a peut-être tendance à oublier un peu. Il y a tous les enjeux forcément économiques avec ce qu'on voit avec la politique agricole commune. Il y a tous les enjeux sociaux aussi, il y a multiples enjeux, et donc tout cela fait que, en fait, c'est pas une question de rejouer le match, encore une fois, des présidentielles ou des législatives. C'est vraiment un autre enjeu, et je pense que les Français doivent vraiment s'emparer de ça, principalement les Bretons aussi, qui sont aussi traditionnellement très européens, et donc c'est vraiment un enjeu pour notre région et pour la France.
Il y a un attachement des Bretons à la chose européenne, on le voit, on voit toujours un peu mieux en Bretagne lorsqu'il s'agit des élections européennes, on se permettra un peu ce chauvinisme ce matin. Néanmoins, on voit le Rassemblement National, par exemple, qui progresse beaucoup dans les intentions de vote aujourd'hui au niveau de l'Europe. Est-ce qu'il faut améliorer l'Europe pour éviter justement qu'elle bascule peut-être dans une Europe plus populiste?
Alors, il faut améliorer l'Europe. Oui, certainement, il y a toujours beaucoup de choses à améliorer dans son organisation, surtout que le fonctionnement à 27 impose des contraintes. Il y a aussi la question de l'élargissement, puisque effectivement, la liste Réveiller l'Europe est aussi pour une adhésion rapide de l'Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine, il y a aussi d'autres pays. Donc ça va effectivement comment changer la donne, et aussi peut-être impliquer aussi des nouvelles organisations. Et je dis ça vis-à-vis du Rassemblement National aussi, parce que le Rassemblement National est plus quelque chose qui est un repli sur des positions très très nationales, alors que pour être efficace, pour que l'Europe puisse vivre et avoir un poids au niveau international, c'est plutôt au contraire une ouverture de l'Europe, de façon à avoir un poids plus important. Par exemple, si on dit par exemple que l'Ukraine intègre l'Europe, l'Ukraine c'est une puissance agricole. C'est une puissance agricole, bien sûr, il faut que ça soit régulé. Puis les agriculteurs le disent.
Oui, ils ont une crainte.
Ils ont une crainte, mais en fait, c'est aussi, il faut voir, c'est que c'est aussi une puissance économique qui est beaucoup plus importante, donc sous réserve qu'on ait un poids plus important et qu'on mène une politique qui soit pas celle d'accord ou sur lequel il n'y a pas de réciprocité, mais par contre c'est un poids plus important, et par rapport au Rassemblement National, il y a plus de sécurité à être plus nombreux que de l'être moins. Et la sécurité, qui est un sujet du Rassemblement National, en fait, je pense qu'ils se trompent sur les objectifs. Et les perspectives qui sont proposées par Raphaël Glucksmann et sa liste, c'est justement un dynamisme, et c'est d'aller en avant et pas un recul par rapport à ce qui pourrait être se passer en Europe, et avec un repli plus sur soi qui est en fait insécuritaire.
Mmh. Alors, on va en parler aussi des grands enjeux. On parlera de l'immigration tout à l'heure. C'est aussi le cheval de bataille du Rassemblement national. L'Europe doit prendre sa part d'immigration plus largement que chaque État qui compose l'Union européenne. Mais je voulais vous entendre aussi sur la géopolitique avant, parce que vous parlez de la force de l'Europe. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe devient un peu adulte. C'est le mot qui a été employé ici par un de nos invités il y a quelque temps dans la matinale. L'Europe devient adulte, c'est-à-dire qu'on avait une Europe qui se cherchait un peu en termes de diplomatie, en termes de défense européenne, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui pour la défense européenne, mais la guerre en Ukraine a précipité beaucoup de choses, et on a aussi des cartes qui sont rebattues au niveau mondial. On voit la Chine qui progresse beaucoup, y compris sur le sol européen, on voit la Russie qui s'installe en Afrique, on voit aussi l'incertitude aux États-Unis avec la réélection possible de Donald Trump. Donc tout cela rebat un petit peu les cartes de la géopolitique. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'une Europe qui pèse plus sur la scène internationale?
Oui, tout à fait. Il faut vraiment que, enfin, la dimension européenne, elle a vraiment la dimension la dimension pertinente pour être une force démocratique vis-à-vis de forces qui ne le sont pas, telles la Russie. Avec l'élection de Donald Trump, qui va nous laisser, au niveau de la situation internationale vis-à-vis de la guerre en Ukraine, un petit peu isolé, sous réserve qu'il soit élu. C'est pas encore
voilà,
fait.
Pour l'instant, rien n'est fait. Rien n'est fait. Les auditeurs, on n'a pas de boule de cristal.
Non, on n'a pas de boule de cristal, mais il y a cette crainte-là, et en fait, ça a permis de une prise de conscience au niveau européen qu'il fallait vraiment être ensemble. Il y a un autre élément qui est à l'origine de cette prise de conscience aussi, c'est la crise du Covid. Mmh. Quand on s'est retrouvé tout seul face à d'autres pays pour négocier des vaccins, il a fallu aussi qu'on soit vraiment ensemble pour pouvoir négocier vis-à-vis des grands groupes pharmaceutiques pour avoir des vaccins. Et c'est parce qu'on était ensemble que l'on a pu avoir une politique et un service vis-à-vis de la population importante, ce qui n'aurait pas été le cas si on avait été tout seul.
Alors, les enjeux, on le disait, enjeux agricoles, on va en parler tout à l'heure, l'agriculture souffre aujourd'hui, la pêche également. Enjeux aussi plus humanitaires, puisque il y a cette crainte d'une immigration massive vers l'Europe, on le voit, ça nous ramène au Rassemblement national qui dit, voilà, il faut fermer les frontières, il faut réguler. Est-ce qu'il faut réguler? Déjà, c'est une chose, répartir les réfugiés qui arrivent sur notre territoire, réfugiés qui fuient la guerre, ou parfois même le climat, car les réfugiés climatiques commencent déjà arriver sur notre territoire. Est-ce qu'il faut que l'Europe, aujourd'hui, ait une grande politique d'immigration, de régulation d'immigration, régulation humanitaire, on l'entend bien sûr?
Oui, il faut vraiment qu'il y ait une politique juste, en fait, que chacun prenne sa part sur l'accueil des réfugiés. Il est complètement inadmissible de laisser mourir des gens en Méditerranée. C'est tout simplement une question d'humanité. Et vraiment, il faut vraiment que l'on puisse, sur ces sujets-là, avoir une politique vraiment pragmatique, mais aussi une politique juste de répartition. Et puis, il faut savoir aussi que là, je lisais un article comme quoi, comment la population européenne avait un problème démographique.
Elle est vieillissante.
Et on a vraiment besoin aussi de cet apport. J'en veux pour preuve ce qui se passe en Italie, où on avait dit Madame Meloni avait fermé les frontières, et en fait finalement elle les a pas si fermées que ça. Et donc c'est aussi, et par rapport à, justement, on parlait du Rassemblement national, il faut pas non plus avoir cette stratégie de peur qu'il mène. En fait, comme pour l'Europe, la diversité C'est une richesse. Et cette diversité-là, elle permet d'avancer. Beaucoup de gens viennent de cette diversité-là. On n'est pas gaulois de père en fils, tous depuis des générations et des générations. Donc cette diversité-là, elle est source de richesse et on a besoin de ce dynamisme. Et la liste que porte Raphaël Glusman est une liste qui est vraiment dans cette optique-là de dynamisme, de changer la donne, changer la façon de faire. Et je pense que une des raisons de justement, on avait parlé en début d'entretien de l'adhésion plus grandissante à cette liste-là, c'est parce qu'il y a une perspective et parce qu'il y a une nouvelle donne qui doit être faite.
Voilà. C'est important que les forces de gauche s'emparent de ces sujets que sont l'immigration, que sont la sécurité également. Il y a cette peur-là. Vous l'entendez, cette peur aussi, on entend parler de grand remplacement par certaines formations politiques, cette peur d'un changement de civilisation, d'un remplacement de civilisation, peut-être même aussi du fait religieux. On entend beaucoup parler de la montée de l'islam. Est-ce que vous les entendez, ces peurs-là ?
Oui, bien sûr, mais... Elles sont existantes, il faut pas les nier et surtout pas critiquer les gens qui expriment leur peur vis-à-vis de ça. Mais par contre, il faut aussi être réaliste par rapport à la situation. Le grand remplacement, il n'existe pas. Ça fait plusieurs des années d'immigration que l'on a depuis des années. Il n'y a pas eu de grand remplacement et en fait, ce qui, encore une fois, c'est une source de richesse. Il n'est pas utile de se s'accrouter sur une situation qui est figée. Quand on bouge pas, on n'avance pas. Et il faut vraiment que l'on puisse avancer et surtout face aux défis qui sont devant nous pour les jeunes générations.
Voilà, il faut aussi faire évoluer les mentalités finalement.
Tout à fait.
Alors, on va parler d'agriculture, on va parler d'environnement, c'est important. Souvent, on pointe du doigt les agriculteurs, ils ont du mal à vivre. On les voit aujourd'hui revenir encore avec leurs tracteurs dans les rues, protester, contester contre en particulier des accords de libre-échange. Est-ce que là aussi l'Union européenne doit avoir un discours plus ferme, plus coercitif, peut-être plus égalitaire aussi vis-à-vis de la chose agricole?
Oui, il faut vraiment que le monde agricole puisse avoir une façon de fonctionner qui soit pérenne. Il est pas acceptable que des agriculteurs se suicident du fait de leur activité. Donc il faut vraiment que on puisse à la fois changer de modèle parce que c'est nécessaire, mais ce changement de modèle là doit être accompagné. Et aussi ce changement de modèle là il doit être protégé par des accords qui ne permettent pas à des pays étrangers de concurrencer nos fabrications de manière déloyale. Il faut vraiment que les clauses miroirs soient appliquées. On en a parlé, on est en désaccord avec ce qui se passe avec le CETA. Il y a vraiment quelque chose à faire sur ces négociations-là. Par contre, ce que je voudrais dire aussi, c'est que il faut pas non plus être sur des clichés. Par exemple, en ce moment, on parle du poulet ukrainien. C'est le sujet à la mode.
Alors, on a le plombier polonais, on a le poulet ukrainien.
Voilà. En plus, le plombier polonais, on en parle alors que, en fait, c'était en ce qui concerne les travailleurs détachés. Il n'y a pas de plombier polonais parce que justement, l'Europe a régulé les choses. Donc, le plombier polonais, il est resté en Pologne. Ou s'il vient en France, il est payé avec le SMIC et avec les conditions françaises sur le territoire français. Et ça, c'est lié à l'Europe. Et par rapport au poulet ukrainien et les agriculteurs, bon, la concurrence, elle est plus du blé russe que du poulet ukrainien. Et donc, faut se méfier en ce moment de toute cette manipulation, notamment initiée par la Russie, cette manipulation d'informations qui est relayée, qui est réamplifiée justement par des partis extrêmes et qui en fait font le jeu de puissances étrangères. En fait, clairement, c'est quelque chose qui, moi, me pose question, quoi.
On le voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, effectivement, toutes ces fake news qui passent, qui sont dures parfois à démonter, si vous me permettez le terme un peu technique. Aujourd'hui, il y a une inquiétude sur ce vote du 9 juin, cette élection européenne. On entend beaucoup de choses. On voit beaucoup d'influenceurs qui là aussi, font circuler des informations qui sont pas fondées parfois. Est-ce qu'il y a une inquiétude, là aussi, au niveau des partis politiques, au niveau de la gauche, au niveau de place publique?
Moi j'ai une inquiétude par rapport à l'influence des réseaux sociaux, effectivement, et puis toutes les tentatives de déstabilisation, comment Raphaël Glucksmann était président d'une commission sur les ingérences et il a vu tous les moyens que déploient ces pays-là pour déstabiliser nos élections, manipuler l'opinion, et c'est vraiment effectivement un souci parce qu'il y a même des radios maintenant, des télévisions, d'opinions véritablement qui ne font plus un véritable travail de journaliste avec vérification des informations, qui relaient justement des informations type poulet ukrainien, qui sont reprises en boucle, qui voilà. Alors je dis pas que le poulet, il y a pas de soucis avec le poulet ukrainien, mais c'est suramplifié et on agite un chiffon à un endroit pour pouvoir mieux agir à un autre. Et en fait, les réseaux tournent en boucle sur le chiffon qu'on agite pour le grand bénéfice de ceux qui nous déstabilisent et qui lancent ces fausses informations.
Alors, il y a eu aussi l'expression présidentielle. On a beaucoup parlé de cet envoi possible de troupes au sol pour aider l'Ukraine à combattre la Russie. On a bien compris aussi que l'enjeu était économique. Si demain la Russie venait à envahir l'Ukraine, ça déstabiliserait l'Europe en elle-même. On parlait tout à l'heure de l'Ukraine et qui est aussi un grenier à blé pour l'Europe. Si demain la Russie mettait la main sur ce grenier à blé, on imagine que les accords internationaux seraient un peu plus compliqués. Néanmoins, il y a eu cette parole présidentielle en disant oui, il n'est pas exclu que demain on envoie des troupes françaises, bien entendu, au sol. Est-ce que c'est une maladresse ou est-ce que c'est une alerte, selon vous ?
Ce qui est surtout voulu être exprimé, il me semble, c'est que dans l'enjeu, c'est qu'on s'interdisait rien. La maladresse, c'est de l'avoir fait à ce moment-là sans en avoir averti ses partenaires de manière un petit peu en fanfaronnant sur ce sujet-là, alors qu'on n'avait pas de justification de le faire à ce moment-là. Par contre, il faut véritablement que l'Ukraine soit aidée, notamment en armement. À savoir, par exemple, que Monsieur Macron a vis-à-vis de nos usines, nos productions d'armement, a refusé de flécher la priorité sur l'aide à l'Ukraine, parce que il y a des intérêts économiques à ce qu'on diversifie nos livraisons d'armement aussi sur des pays du Golfe notamment. Donc voilà, il y a tout cet élément là et là aussi on agite un chiffon et c'est repris en boucle en disant il est hors de, enfin, aujourd'hui, heureusement, il n'est pas question d'engager des forces armées directement contre la Russie. Mais ça fait c'est une stratégie de encore une fois, de faire peur, de façon à ce qu'on relaie des informations et c'est repris en boucle. Et c'est... Alors que, en fait, quand on regarde avec un petit peu de recul les choses, la nécessité, c'est vraiment de mettre le paquet pour aider les Ukrainiens qui demandent que de l'armement, que du matériel et pas être en retard par rapport à leur demande. Parce que pour l'instant, on a toujours été en retard par rapport à leur demande, avec les conséquences difficiles qu'ils ont, et c'est des prix et des vies humaines qui sont en jeu.
Je voudrais vous entendre sur un autre sujet qui est tout aussi important, évidemment, c'est l'Europe sociale. Elle est chahutée un peu aussi, l'Europe sociale, et en France aussi, on a vu des déclarations, on a un gros déficit, 5,5% du PIB. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, veut taxer, en tout cas, il veut pas faire d'impôts, mais il voudrait bien taxer, par exemple, l'épargne, taxer un peu les Français pour essayer de récupérer un peu d'argent. On a entendu aussi Gabriel Attal s'exprimer, le Premier ministre, sur l'assurance chômage et une réforme de l'assurance chômage. C'est un peu franco-français, mais ça a aussi une implication européenne. Comment construire l'Union européenne aujourd'hui si on a du mal à construire aussi le côté social ici en France, ou en tout cas s'il se dégrade?
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'oriente de plus en plus avec une société à deux vitesses, avec des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Il faut véritablement remettre de la justice, et cette justice-là, elle doit être aussi portée par une politique européenne qui soit efficace. Mais par contre, cette politique européenne, elle doit être juste, mais ce qu'il faut savoir, par exemple, j'ai entendu des gens parler de la Roumanie, par exemple. Mmh. Bon, il faut savoir que depuis 2015, le salaire moyen en Roumanie a doublé. Mmh. Donc, en fait, l'intégration européenne, quand on parle d'Europe sociale, eh ben, en fait, c'est un plus aussi. Et cette intégration européenne, c'est Jacques Delors qui disait, il y a un triptyque, la compétition qui renforce, la solidarité qui unit, et vraiment ces éléments-là sont fondamentaux pour la construction européenne et une construction d'une Europe sociale. Alors c'est sûr, il faut des garde-fous, mais par exemple, si on dit par exemple l'Ukraine intègre l'Europe, elle va pas le faire du jour au lendemain, et ça se fera de toute façon par étapes. Donc il n'y a pas à agiter des peurs en disant voilà, les Ukrainiens vont dégrader la France au niveau social. La dégradation, elle est plutôt interne dans les politiques que l'on mène, et notamment justement vis-à-vis des super profits, vis-à-vis de comment Aurore Laluc, qui est aussi place publique et qui était au Parlement européen, porte avec Paul Magnette aussi, qui est en Belgique, une pétition d'initiative européenne pour taxer les riches. Et ça fait partie de ce que l'on peut faire pour améliorer une Europe sociale qui soit plus juste.
Alors, Europe sociale, il nous reste quelques secondes, Europe sociale aussi, qui permettra de mettre moins de concurrence entre les pays, mais peut-être une meilleure harmonie. Alors, on parlait des salaires, évidemment, mais aussi au niveau social, au niveau protection sociale, d'ailleurs.
Oui, il est important qu'il y ait tout ce volet à la fois de compétition nécessaire parce qu'elle permet d'enrichir d'une solidarité aussi nécessaire parce qu'elle est à la base de l'union, et donc c'est vraiment tous ces éléments là qui font que on pourra vraiment avoir une Europe importante. Alors, juste en parlant d'un sujet aussi qui est important aussi, qui nous touche aussi, c'est le logement ici en Bretagne. Il faut vraiment qu'on puisse aussi à ce niveau-là porter des mesures pour faire en sorte qu'il y ait les logements soient isolés et tout ça. Donc c'est vraiment une dynamique, quelque chose que l'on doit apporter sur l'Europe.
Voilà, on aurait pu aussi parler un petit peu plus effectivement de l'environnement, mais j'imagine que là aussi il y a des mesures dans la liste Réveiller l'Europe de Raphaël Luxman, conduite en tout cas par Raphaël Luxman, et vous étiez avec nous ce matin, Jean-Louis Minès. Je rappelle que vous êtes référent place publique dans le Morbihan. Vous avez fait la route pour être avec nous pour parler de cette Europe et de cette construction européenne qui continue toujours et encore.
Ben merci, et puis on espère qu'avec avec les gens pas publics et aussi nos camarades du Parti Socialiste, on puisse créer vraiment une dynamique et que les gens puissent trouver une confiance dans nos actions.
Merci infiniment d'être venu en parler au micro merci de Bretagne 5 Matin. Très belle journée.
Bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.